Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Un sujet de société dans la première partie de ce magazine. Au Togo, plus d'enfants dans les couvents vaudous en période scolaire. Les oracles ont donné leur feu vert. Nous verrons comment. L'Afropresse suivra avec Marie-Ange Pierron, l'actualité africaine commentée dans la presse allemande. Marie-Ange, bonjour.
Bonjour Fréjus.
Et en attendant de vous retrouver, vous annoncez les grands thèmes de l'Afropresse.
Alors les grands thèmes cette semaine, ce sont la Centrafrique et puis le Rwanda et les questions notamment de la brouille entre Pretoria et Kigali.
À tout à l'heure Marie-Ange, et voilà pour le sommaire d'Afrique 7 jours. Merci de nous rejoindre. Le respect des droits des enfants, cela concerne aussi les couvents vaudous. Au Togo, après avoir pris l'engagement de bannir et ou d'alléger certaines pratiques sociales et culturelles préjudiciables aux enfants, les prêtres traditionnels vaudous ont organisé dans la ville de Nautste, située à 100 km au nord de Lomé, une cérémonie de consultation des oracles. Cela a permis de demander la permission aux ancêtres et aux divinités pour alléger la mise au couvent des enfants. Noël Tadeyon a suivi pour nous la cérémonie.
Nous sommes en pleine cérémonie de consultation des oracles conduite par des prêtres vaudous. Après avoir pris l'engagement d'alléger ou de bannir certaines pratiques sociales et culturelles préjudiciables aux enfants, les prêtres traditionnels vaudous ont organisé cette cérémonie indispensable pour les croyances ancestrales. Huno Kofigan, prêtre vaudou. Nous invoquons les oracles afin qu'ils nous disent les rituels et cérémonies à faire pour la libération des enfants des couvents. Nous devons permettre aux enfants d'aller à l'école. Leur place est en classe et non dans les couvents vaudous. Ils sont des milliers d'enfants à passer une partie de leur enfance dans des couvents vaudous au Togo. Ces enfants sont envoyés par leurs parents dans ces couvents tenus par des prêtres traditionnels qui les soumettent à des rituels et initiations. Ces initiations durent parfois 4 à 5 ans, privant ainsi les enfants de toute éducation scolaire. Face à la gravité de la situation, les autorités togolaises, appuyées par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, ont entamé des actions de sensibilisation des prêtres vaudous sur l'importance de bannir ou de réduire les pratiques rituelles. Et c'est ainsi que des chefs traditionnels et religieux se sont engagés à lutter contre ces pratiques sociales et culturelles néfastes aux enfants et à privilégier et celles qui favorisent le développement de ces derniers. Ounongan Atinu Koku Mensan Soutoré, président de la Fédération nationale des cultes vaudous du Togo.
Nous nous engageons à faire tout pour alléger les pratiques socio-culturelles néfastes des enfants. Nous voulons que les enfants aillent à l'école, ne perdent pas leur vie dans les couvents.
La consultation des oracles a été immédiatement suivie d'une cérémonie rituelle traditionnelle au cours de laquelle des sacrifices demandés par les mains des ancêtres et les divinités ont été faits dans un sanctuaire vaudou. Togbi Agokoli IV, président de l'Union nationale des chefs traditionnels du Togo.
C'est ce que les prêtres vaudous avaient souhaité, qu'ils doivent consultation les oracles et savoir ce que les mains de nos ancêtres veulent recevoir en offrande avant de libérer ces enfants-là. C'est pour ça que tout le cheminement doit aboutir à la libération de ces enfants-là des couvents, des cultes vaudous.
Désormais, l'internement des enfants dans les couvents vaudous ne se fera uniquement que pendant les vacances scolaires. Togbi Chahold, chef traditionnel de la localité d'Afanyan dans le sud du Togo.
Rien n'est impossible. C'est ce qu'on vient de commencer. Et on verra avec le temps. Sinon, on ne peut pas dire qu'il y a le temps, il y a certaines contraintes qu'on ne peut pas venir à ce que nous voulons pour nos enfants. Pour question de temps, ça ne pose pas de problème.
Togbi Agokoli IV, président de l'Union nationale des chefs traditionnels du Togo.
À partir de maintenant, les prêtres vaudous doivent faire la cérémonie pendant les vacances et libérer les enfants. S'il y a quelque part... Le vaudou doit garder l'enfant plus de 2 mois, 3 mois, ce qui va dépasser le temps des vacances. Il appartient à ce prêtre-là d'échelonner la faisabilité, c'est-à-dire 2 mois et à un autre moment, l'année prochaine, faire encore 2 mois pour que la cérémonie là soit accomplie dans un temps qui ne va pas gêner non plus les vaudous, qui ne va pas gêner non plus les enfants à l'école.
La religion traditionnelle vaudou est pratiquée par 52% de la population du Togo. Cette population est estimée, selon les données officielles, à plus de 6 millions d'habitants. Noël Tadignan à Lomé pour la Deutsche Welle.
De retour des couvents vaudous du Togo, voyons maintenant les sujets africains qui ont retenu cette semaine l'intérêt de la presse allemande. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Marie-Ange, c'est tout d'abord la Centrafrique.
Avec plusieurs articles comme celui-ci paru dans l'hebdomadaire Die Zeit, sous la plume d'une Allemande qui a grandi en Centrafrique où son père était missionnaire. Les massacres qui se déroulent depuis décembre, écrit-elle, n'ont rien à voir avec la religion. Enfants, nous jouions dans la brousse, nous mangions tantôt chez la mère des uns, tantôt chez la mère des autres, nous nous serrions dans des cuisines enfumées et plongions le manioc dans la sauce. Cela peut sembler romantique, mais ne l'était pas. Les enfants étaient battus. Un jour, un époux a attaqué son rival à coups de machette. À la fin de l'école primaire, je n'avais pratiquement plus d'amis. Les filles devaient travailler à la maison, les garçons étaient d'horribles machos. À 11 ans, je tenais dans mes bras l'enfant d'une camarade de jeu. Depuis, beaucoup d'autres enfants sont venus au monde. L'éducation n'a pas suivi. Les enseignants n'étaient pas payés. Les écoles étaient souvent fermées. La Centrafrique, poursuit l'auteur, affiche toutes les caractéristiques d'un pays sous-développé. La pauvreté y est extrême, les gens n'ont aucune perspective. Il va de soi que cela engendre le désespoir et la recherche de boucs émissaires. Personne en Centrafrique ne tue pour son Dieu. L'appartenance religieuse est vue d'un œil pragmatique. Chacun est à la recherche du sortilège le plus puissant contre ses peurs. Le christianisme n'est ici qu'une option parmi d'autres et ce n'est pas la plus mauvaise, car ses partisans sont généralement bien nourris, ils roulent en voiture et se paient des voyages. Les Centrafricains, ajoute encore l'auteur de l'article, aiment regarder ce que le marché de la spiritualité a à offrir et expérimentent ce qui fonctionne. Cela n'a rien à voir avec le fondamentalisme religieux.
Guerre de religion ou pas, toujours est-il que, comme le relève un quotidien allemand, des rebelles musulmans massacrent des chrétiens et des rebelles chrétiens massacrent des musulmans.
C'est ce qu'écrit effectivement la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui note qu'à Bangui, des quartiers entiers sont en ruine et que personne n'est capable de gouverner le pays. Le journal présente aussi à ses lecteurs des jeunes d'une milice anti-Balaka. Mathieu, l'un d'entre eux, ne veut pas dire s'il a tué des gens, ce n'est pour lui qu'un détail. Il est midi, note le journal, la bière et la drogue ont fait depuis longtemps leur effet. Mais pour autant que leur état le permette, ils sont prêts à répondre aux questions, ce sont des assassins de masse polis. Et puis la FAT se fournit aussi une explication du mot anti-balaka. Je ne sais pas, Fréjus, si vous étiez au courant, mais moi je n'ai jamais lu cette explication ailleurs. Anti-balaka, explique le journal, signifie en fait anti-balaka, du nom du fusil d'assaut AK-47, l'arme standard de tous les rebelles en Afrique. L'hebdomadaire Der Spiegel a rencontré pour sa part le commandant autoproclamé des anti-balaka à Bangui, Sylvestre Yaguzou, un ancien mécanicien dont le garage a été pillé lorsque les rebelles de la Séléka sont entrés l'an dernier dans Bangui. Quelques mois auront suffi, note le journal, pour plonger le pays dans un conflit sanglant. 1 million de personnes sont en fuite. Même les malades doivent maintenant être transportés dans des véhicules blindés. Les musulmans ne peuvent plus enterrer leurs morts car leur cimetière est proche des quartiers chrétiens. Et cela, c'est pour Bangui, souligne le journal, car on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur du pays.
Et pas très loin du drame centrafricain, c'est la brouille entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Pretoria a expulsé des diplomates rwandais, Kigali, des diplomates sud-africains. Il s'agit là de mesures tout à fait inhabituelles entre pays membres de l'Union africaine et la presse s'en fait l'écho, Marie-Ange.
La Neue Zürcher Zeitung, par exemple, un journal suisse de langue allemande, rappelle les raisons de la colère de Pretoria, à savoir l'attaque du domicile de l'ancien chef d'état-major général rwandais, Faustin Nyamwasa, réfugié à Johannesburg. Ce dissident rwandais a déjà survécu à deux attentats depuis qu'il a obtenu l'asile en Afrique du Sud en 2010. Il y a deux mois, un autre opposant rwandais, l'ancien chef des services secrets, Patrick Karegeya, a été assassiné à Johannesburg. Les deux hommes, note le journal, ont participé en 2010 à la création du Congrès national rwandais, un mouvement d'opposition qui reproche au gouvernement rwandais de réprimer toute contestation politique sérieuse. C'est effectivement le cas, mais ces dissidents ne sont pas non plus des enfants de cœur. Et poursuit le journal, s'ils sont tellement détestés par Kagame, c'est parce qu'ils connaissent beaucoup de secrets concernant les crimes de guerre commis par le FPR avant et après le génocide des Tutsis. Ces crimes sont passés sous silence par Kigali.
Et toujours à propos du Rwanda, un autre journal présente un bel exemple de réussite dans le développement du pays. C'est l'introduction, Marie-Ange, d'un système d'assurance maladie qui couvre pratiquement toute la population.
Et comme l'explique le général Anzeiger de Bonn, il a été introduit avec l'aide de la GIZ, de la coopération technique allemande, et il a nécessité 10 années de travail. Au début, la cotisation était la même pour tous, 1000 francs rwandais, environ 1 euro, par personne et par an, indépendamment du revenu. Mais il est vite apparu qu'un tel système ne pourrait être financé, et raison pour laquelle 3 niveaux de cotisation ont été introduits. Les plus pauvres, soit 25% de la population, ne paient rien. Les autres niveaux de cotisation se situent, selon le revenu, à 3000 et 7000 francs rwandais par personne, ce qui signifie que dans une famille, tout le monde, du nourrisson au vieillard, doit s'acquitter d'une cotisation. Le tout fonctionne selon le principe de l'auto-estimation, poursuit le journal. Chaque foyer déclare à quel groupe de revenus il appartient, mais il doit le justifier devant la communauté villageoise, laquelle doit donner son approbation.
Et c'est ici que s'achève ce numéro d'Afrique 7 jours avec à la coprésentation Marion Spiron et Fréjus Cunhomme. Merci à tous de nous avoir suivis.